Et est-ce que c'est dans tous les bleds d'Italie du Nord, parce qu'il y a vachement de fleurs en fait en pot et tout, ça a l'air vachement fleuri ici.
C'est exact, ce village est quand même ultra bien entretenu et très mignon, avec beaucoup de fleurs en effet.
Là, elle tire un peu la gueule parce qu'il a beaucoup plu hier et qu'il y a eu beaucoup de vent, mais sinon ça doit être très joli d'habitude. Ah, et on arrive à une espèce de grosse sculpture de hibou, je pense, parce qu'il y a juste à côté un panneau avec écrit le pas de chemin des hiboux.
Ah oui, c'est vrai.
Et qui nous dit « Bienvenuti », bienvenue.
Et là, on est en train de passer à côté d'un verger trop mignon avec plein de pommes qui m'ont pas l'air très mûres pour le moment. Et ouais, le bienvenuti du hibou. Et puis ouais, on est sur les premières petites maisons en pierre. Il y a, ça fait un peu chalet tout ça avec des petits trucs en bois, des pierres. Voilà, c'est un toit en tuiles, mais sinon là, on voit qu'il y en a d'autres qui font des vrais toits avec des pierres plates quoi.
Et il y a plein de très très jolis jardins aussi, des gens qui cultivent chez eux et voilà.
Là je crois que les tomates elles sont quand même très très en retard parce qu'elles m'ont l'air encore vert très très clair.
Ouais, ou alors c'est une espèce des montagnes, je sais pas, elles ont une drôle de forme aussi.
Ouais, et là on a deux statues méga mignonnes, il y en a une c'est un renard qui regarde des raisins. Et l'autre, donc celle-là, elle est en bois. Et l'autre, elle est en... Je sais pas comment dire, c'est une structure en métal avec des espèces de tissus au-dessus.
En fil de fer pied de poule, il me semble. Ou nid de poule, je sais pas.
Et je pense que ça représente une mariée ou quelqu'un qui va chercher des fleurs. Il y a un panier avec des tournesols dans sa main gauche. Et je sais pas ce que c'est comme fleurs. Des petites fleurs blanches, peut-être de pommier dans sa main... sans autre main. Et on a tout ça, c'est à côté d'une espèce de petite chapelle où, en tout cas, il y a probablement un édifice religieux. Il y a écrit San Petrusa. Il y a des fresques dessus.
Voilà. En fait, c'est Saint-Pierre, hein, parce qu'il a des clés à la main, donc je pense que c'est Saint-Pierre.
Ouais, San Petrusa, ça doit être Saint-Pierre.
Ça y ressemble. Et la petite statue du renard qui regarde le raisin s'appelle Non e matura, c'est pas encore mûr.
Dans la flotte. C'était très étrange de visiter ce petit village tout pavé, tout bien entretenu, très très mignon, comme sur une carte postale, en sortant... du Présidio, où toutes les tentes sont dans des marécages et remplies d'eau, où la nuit a été un peu humide, on peut dire.
Et là, on est en train de passer la Piazza della Marghera, avec au fond les panneaux typiques de l'Italie, où il y a tous les décès de l'année sur des espèces de feuilles qui sont toutes pareilles, avec une petite image de la Vierge, et où ils annoncent les messes d'enterrement. Et puis d'autres choses, un autre panneau à côté qui indique les fêtes de la commune. Et là, sur la place, on a d'autres sculptures. En fait, on a ces deux énormes sculptures de vaches avec une dame dans des vêtements traditionnels et un petit garçon avec un chien. Et je pense que ça représente la tradition d'amener les vaches dans les alpages. Et puis, il y a un grand bâtiment où il y a écrit AIB Venaus. Tu sais ce que c'est ou pas ?
Non, je sais pas. C'est une structure municipale parce qu'il y a des... c'est écrit « Attention, sortie de camion anti-incendie ».
Ah, bah du coup, c'est sans doute le truc des pompiers, en fait. Et du coup, dessus, il y a plein de fresques qui représentent la récolte, je pense, du vin, la récolte du blé... Le battage, ouais. Les travaux agricoles, quoi.
Ça fait du bien de marcher, ça veut tout marcher, en plein milieu.
Peut-être qu'on peut aller regarder. Non, mais on la fera quand on sera là-bas. Parce que si ils ont fait leur focaccia. ce sera le bonheur. Je n'ai pas d'argent.
Moi, j'ai pris...
On parle de la boulangerie de Venhaus.
J'ai des sous sur moi. Bon. J'ai 4,50€.
En espérant qu'ils aient à manger.
Particulièrement celle en pierre quand même.
Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est des les toits, c'est des dalles de pierre, quoi. Ouais. C'est enfin des petites dalles de pierre, genre du 80 cm sur 80, et elles sont empilées les unes sur les autres, genre des ardoises, mais en mode géant. Ça doit être super lourd.
Il y a un petit bonhomme en souche avec deux hiboux avec des bouts de souche en mode, mais vraiment trop enfant. C'est beaucoup trop mignon.
C'est vraiment trop mims.
Et c'est une maison vraiment que en pierre avec des fleurs partout. Waouh, c'est trop joli. Et là, je pense que c'est un vieux grenier avec vraiment la structure en bois pour passer autour. Bon, le dessous est un peu a été rebétonné et plus moderne, mais sinon c'est vraiment très très chouette.
Un peu de la pierre sèche, mais un peu consolidée. Oui, il y a vraiment des parties totalement en pierre sèche, puis après la rénovation partielle au fur et à mesure du temps.
Touche trop mignon avec un bac de fleurs au-dessus, avec comme un vieux monsieur avec ses chaussures, sa barbe et ses lunettes.
Le bac de fleurs lui fait une coupe de cheveux magnifique. Franchement, j'aurais voulu avoir ça avec les cheveux plus courts.
Et on est passé près de la Via Belvedere et il y a plein d'espèces de petits passages partout, souterrains, avec des petits escaliers qui partent. Et là, on est devant une petite église, un peu mignonne aussi. Il y a pas mal de couleurs aussi. Il y a des maisons qui sont peintes en rose, en saumon, en jaune, en vert, en orange un peu plus là-bas. Ça alterne un peu avec les maisons un peu plus grises en pierre et tout. C'est vachement joli. Ah, il y a encore des bonhommes en souche là-bas.
Des bonhommes de neige en bois, des bonhommes de bois, je ne sais pas comment les appeler. Et c'est vrai qu'à certains niveaux, enfin certaines maisons, c'est chaque niveau a sa couleur. C'est une façon d'être vivant et de la couleur, c'est beau, c'est agréable.
Bon, ceci étant dit, on vient de croiser nos deux premiers humains. Le village a l'air un peu endormi aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon ce petit espèce de...
Il venait probablement du camp aussi.
Et c'est vrai que cette décoration partout, ça fait plaisir. Et du coup, ce village soutient et globalement en soutien avec la lutte.
Oui, puisque tous les ans, depuis je crois 8 éditions, le dernier week-end de juillet, il y a le festival Alta Felicita, qui est donc un jeu de mots entre Alta Velocita, grande vitesse et grande joie. Et du coup, c'est un festival de musique. Totalement gratuit, qui a lieu juste à côté du Presidio. Et du coup, ça permet aussi à tous les comités notables de venir faire la cuisine pour les festivaliers, donc remplir des caisses. Et aussi les artistes qui se produisent, qui peuvent parfois être très connus en Italie.
Attention aux chiens. On est... Tous assez mal à l'aise, mais ça va, il est enfermé.
Attenti al cane, comme il y a écrit sur le portail.
Et du coup, donc tous les artistes, ils n'ont pas de cachet à ce festival, on leur rembourse juste les frais, donc c'est vraiment un engagement aussi de venir au festival pour eux. Voilà.
Parfait. Et là, on arrive devant un magnifique lavoir.
Il reste même les planches en bois sur lesquelles on pourrait poser notre linge. Alors, pour le moment, il est déjà bien humide. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, je le sens dans mes chaussettes.
Ouais.
Mais s'il était sec, on pourrait peut-être venir le laver. Hein.
Et en tout cas, juste derrière nous, il y a une fresque avec un couple habillé en habit traditionnel. Qui, personnellement, l'habit traditionnel de la femme me rappelle beaucoup les habits traditionnels en Savoie. Et c'est écrit « Tradition de Veno », qui veut dire « Tradition de Venhaus » en piémontais.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble pas du tout à... Enfin, ça ressemble très de loin à d'italien.
Et là, alors l'habit de la femme est assez sobre, noir, avec une petite coiffe. Moi, ça me rappelle les coiffes bretonnes, pas de fête, mais les coiffes traditionnelles, avec un grand foulard blanc. Et par contre, l'habit de l'homme, alors il y a un pantalon noir avec une raie jaune qui est encore assez sobre, une veste avec plein de couleurs différentes, des raies, des froufrous, etc. Et un chapeau complètement plein de fleurs avec des rubans. Et qui fait, ouais, qui doit bien faire 20 cm de haut, quoi. C'est assez rigolo.
Il a aussi une épée longue sous ses mains. Vraiment une épée longue fine qui ont un très très long poignet. Ah oui, on continue dans l'ensemble des constructions et sculptures. Là, on a un petit bonhomme qui est en train de scier la branche sur laquelle il est en train d'être assis. C'est assez drôle à voir.
Et au-dessus, il y a un couple qui fait de la vannerie, visiblement. Toujours des sculptures. Et plein de passages en bois, un peu tortueux, en hauteur, accrochés au dernier étage des maisons. C'est assez joli.
Je ne m'aventurerai pas sur celui-ci parce qu'il y a quand même des morceaux de bois qui ne sont plus dans leurs emplacements. Voilà, un petit peu peur de tomber. Là-bas, ça a l'air pourri aussi. Cet étage-là n'a plus l'air d'être habité de toute simple façon.
Ouais, là, je pense que c'est un bâtiment vide. Mais pourtant, il doit y avoir des rénovations modernes en béton là. Mais... Et on est sur la Via della Romana. Je n'arrive pas à lire.
Via Romana, non ? Juste.
Non,
Romain, oui. On continue, toujours plus de sculptures. Et cette fois-ci, c'est un mignon hérisson avec un papillon qui se pose sur son nez. Franchement, ça donne envie de faire des câlins tout choupi mignon. Encore une petite chapelle, ça y a l'air d'en avoir beaucoup dans le coin. J'en remarque aussi qu'il y a pas mal de personnes à avoir mis des panneaux solaires sur leur toit. C'est assez courant.
Et là, on a la vue entre les maisons en pierre sur les montagnes. Avec la neige en haut et les torrents, c'est incroyable.
Ces torrents qui laissent des traînées dans la montagne, c'est vraiment magnifique. Surtout que là, vu que c'est juste après la tempête, ils sont irréguliers, donc de temps en temps, tu les vois qui... Hop, il y a un gros flux qui arrive, et puis après, c'est fini. Ça fait des effets visuels assez beaux. Par contre, je voudrais pas être à côté.
Une marmotte en bois et un monsieur, je sais pas trop, un monsieur avec une longue barbe blanche et un grand balai à la main, un peu gnome peut-être.
La marmotte, on a l'impression qu'elle est assise sur un trône, genre c'est la reine des marmottes.
Et c'est écrit en dessous molto cicciona, ça veut dire qu'elle a vraiment bien mangé.
Et il y a une petite étoile anarchiste aussi et un smiley.
Le vieux bonhomme a une belle chouette aussi posée sur son bras, mais il n'y a pas d'intitulé, il n'y a pas de petit panneau son pour pouvoir donner des informations. Et on tombe sur un deuxième lavoir quand même. Ça fait...
Avec deux magnifiques chaussures tenant des pots de fleurs.
On n'arrête jamais l'art ici.
Le concours de sculpture sur bois soit vu par plein de gens, ça met vraiment énormément de vie dans le village et t'es jamais seul dans le village quand il y a le festival. Et la bibliothèque en profite pour vendre des livres à prix libre. Clairement, la boulangerie fait son meilleur chiffre d'affaires de l'année. les bars aussi, enfin, c'est trop chouette. Ça fait vraiment vivre le village et vivre le mouvement d'auteur aussi, forcément.
Et c'est à quelle période de l'année ?
C'est le dernier week-end de juillet.
Et du coup, il disait hier, parce que du coup, hier, il y a eu plusieurs interventions, et il disait que notamment, donc là, le Presidio de Venaos, où on est, ça a permis de déplacer le tracé du Notave, et surtout de faire perdre plusieurs années. Et ils expliquaient que notamment, il y a une fois où les flics étaient arrivés, et ils pensaient tomber sur des jeunes cagoulés. Et en fait, non, en fait, c'était plein d'habitants du coin, des personnes assez âgées aussi, parce que la lutte en Notave, elle s'appuie beaucoup, beaucoup sur... tout ce qui est sur le local et sur l'opposition des gens du coin qui veulent protéger leur vallée. Et du coup, peut-être qu'on peut raconter notre soirée d'hier où on était à un autre presidio, le presidio
de San Didero.
De San Didero, oui. Et du coup, ça, c'est un presidio sur le nouveau tracé, du coup, en face d'un chantier complètement militarisé. Avec des barbelés partout, je sais pas combien il y avait de camions de flics derrière, de militaires en fait. Hein.
Il nous disait 50 policiers en permanence sur place. Ils font des créneaux de 6 heures, du coup ça fait 400 personnes, parce qu'il y a un deuxième site comme ça, 400 policiers embauchés à temps plein pour ça.
Et du coup il y a eu d'abord des prises de parole et la nourriture. Notamment une polenta, mais moi j'étais pas dans le bon endroit de la. Ouais, même mon souli, j'en ai pas eu. On était trop loin dans la file.
Et ça, c'était fait par I Fornelli in Lotta, du coup les fourneaux ou les fours en lutte, qui permettent de faire la cuisine pour le mouvement quand il y a des besoins plus grands.
Et après nous être sustentés, nous sommes partis faire une petite balade. Nocturne autour de ce chantier militarisé jusqu'à arriver à la porte arrière où je pense qu'il doit y avoir les approvisionnements. Alors c'est des grandes portes, mais celles de l'avant aussi, remarque, où je pense qu'il tremballe beaucoup de matière. Et là il y a des petites grilles qui sont tombées, il y a surtout les gens qui étaient sur les grilles en fait du chantier militarisé et qui ont tapé dessus pendant des heures, mais c'était vraiment long.
C'est la tradition apparemment, où quand on arrive sur le chantier, on prend un caillou et on tape sur les grilles. Donc ça fait vraiment une musicalité de la lutte qui donne du courage, où tout le monde tape dessus et on fait du bruit et on fait des allers-retours entre quand la police italienne envoie des lacrymos, on recule, après on retrouve un caillou et on continue. De taper sur la grille.
Même sous les lacrymos, il y a clairement des gens qui ne s'arrêtaient pas de taper. Hein. Et puis, bon, il y a des gens qui se sont chauffés. Il y a eu un petit tir de feu d'artifice avec un tir en échange de lacrymos. D'ailleurs, on s'est dit que les lacrymos italiennes étaient un peu moins fortes que celles françaises. Par contre, je pense qu'elles sont plus chaudes parce qu'elles prennent feu. Et c'est assez surprenant. Donc, si vous allez en Italie, ne faites pas les mêmes bêtises que nous hier. N'essayez pas de les écraser au pied. Mettez du sable ou de l'eau dessus. Ce sera moins dangereux. Pour vos chaussures, en tout cas. Et voilà. Et ensuite, ils nous ont sorti le canon à eau. Et ce qui nous a permis d'apprendre un nouveau slogan en italien. Grazie per la douche.
Merci pour la douche. Et sinon, il y a aussi... L'avantage, c'est qu'ils sont un peu plus sympathiques quand même ici. Ils évitent de te lancer la lacrymo directement sur la tête. Ils t'entourent juste de lacrymo. Donc voilà, tu risques pas de te prendre une explosion et t'as un petit peu le temps de te barrer si t'es malin. Ou si tu supportes de rester sur place, comme tu veux.
Je suis pas d'accord. Je crois que juste ils devaient tirer au-dessus de trucs de 8 mètres, donc ils le faisaient un peu au pif. Mais apparemment, ils ont tiré aussi vers le parking où il se passait rien à ce moment-là. Du coup, on sait pas trop pourquoi.
Mais les Italiens et Italiennes nous ont vraiment... l'organisation, on savait pas trop, les informations ne circulaient pas forcément, mais ils nous ont vraiment très rassurés, ils nous disaient qu'ils faisaient ça assez souvent, vraiment pour occuper peut-être un peu la police aussi qui ne fait vraiment rien et qui stationne juste à l'intérieur du chantier militarisé. Et du coup, y avait vraiment... on était tous en groupe et on restait ensemble. Et donc tout se passait bien finalement.
La partie la plus dangereuse, ça a été de faire le tour au milieu du champ de maïs. Et je me suis dit que des gens allaient se tordre la cheville, mais tout s'est bien passé.
Du maïs pour les poulets.
C'est un slogan que nous avons du coup appris aux Italiens. Je ne sais pas si ça va être repris, mais en tout cas, ça, on fait tourner le savoir-faire. Il y a du ciel bleu enfin!
Oui.
Mais la boulangerie est fermée!
Ciao!
Risotto! Ce l'hai una gattina? Andiamo!
Je suis au QG, à l'espace occupé. Je suis restée derrière parce que je suis fatiguée. Je ne suis pas allée faire la visite du chantier. Et là, il y a tous les étudiants qui sont autour de moi, italiens. Et je crois qu'ils vont préparer une petite surprise, une petite cerise sur le gâteau par rapport à la visite auquel les Français ont été conviés. Suspense. J'en saurai plus tout à l'heure, mais là, je les vois partir en go, go, go.
Tutti siamo stati segati qui, cioè è bellissimo. I meglio sono tutti qui, cazzo. È bellissimo. Cioè, vuol dire che avevamo talmente tanti interessi esterni che la scuola era... No, io mi sono diplomata. Sì, sì, sono riuscita a fare 2 anni in una serale.
Capisci che questo lo fa perché lo sente proprio, e dalla parte però c'è anche la lucidità del professionista che quindi ti dà poi quel contrasto di... Cioè che poi in realtà questo è una logica, cioè un modo di scrivere, tipo, cioè in mezzo a te è giornalistico, che effettivamente applicarlo anche a livello di militanza, a livello di cosa mai cambiando, cioè è una forma molto figa.
Anche perché avere delle chiavi di lettura per capire le persone da giornalista è è uno strumento fondamentale della politica, fondamentale.
Grazie del latino. No, io ho un po' di una lingua con classe, ho un po' di una lingua con classe.
Mega Radio, benvenuto.
Capsule sonore, tournée montée, AAH, de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
Cette zone, après qu'ils ont fermé le présidio, ils ont commencé à arracher tout. Ils ont détruit tous les arbres, ils ont déplacé le fleuve, et c'est la situation qu'on voit maintenant.
Et l'area adesso è ancora, diciamo, sotto sequestro in qualche modo, ma perché vogliono impedire che noi possiamo vivere di nuovo i mulini come abbiamo fatto poi dal 2020, che è stato il precedente allargamento in cui c'è stata la grande resistenza di quell'estate nel 2020, dove abbiamo ripreso questi mulini e abbiamo cominciato a farli rivivere con una sequenzazione costante.
Toute cette zone-là, toujours maintenant, est sous contrôle judiciaire. Et c'est parce que la police, la préfecture veut nous empêcher en fait de faire ce qu'on faisait auparavant. En particulier, ils veulent empêcher qu'il y ait de nouveau la situation qu'il y a eu dans l'été du 2020, où ici, il y a eu pendant tout l'été, il y a eu des centaines de personnes qui sont restées au boulot, qui sont passées, ils ont resté avec et tout ça. Et après l'été, il y a continué à avoir des personnes qui sont allées au Moulini, qui sont occupées de l'endroit, ils se sont occupées des vignes qu'il y avait, des canaux d'eau, et ils ont fait vraiment vivre cet endroit. Et ça, évidemment, ça leur pose un problème, et donc pour faire l'enlargissement du chantier, ils ont aussi fermé toute la route. Un autre petite histoire de la nature, de la botanique de cet endroit. En 2017, des camarades, ils ont trouvé dans un des prés là-haut, ils ont trouvé des plantes, c'est des plantes qui servent à nourrir une espèce de papillon protégé par les directives de la Commission européenne, les directives Habitat. Le papillon, il s'appelle Delicia Bonicella, et c'est un papillon qui est une espèce protégée. Et ils l'ont trouvé là-bas en haut et aussi là-bas en bas près du Moulin. Payer un projet à l'université de Turin, en fait, pour déplacer les populations des papillons qu'ils ont trouvés près du chantier et les mettre dans un autre pré.
Magnifique.
Et en fait, finalement, ce projet n'a pas du tout eu du succès grâce à un collectif des étudiants de Turin. Comme ça, ok. On a découvert que le projet, c'était complètement faux ce qu'ils essayaient de faire. C'était d'ailleurs quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Le collectif de Turin a demandé et a reçu les documents de ce projet, qui a démontré que suite à un autre élargissement qui a eu lieu en 2020, la population des papillons qui étaient là-bas près des moulins a été complètement exterminée. Et donc du coup, il n'y avait pas de possibilité de déplacer cette population parce que déjà, elle n'y était plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a seulement pu découvrir récemment en regardant les documents, parce que tout simplement, ils ne voulaient pas faire sortir cette nouvelle après avoir dépensé beaucoup d'argent sur ce projet de greenwashing.
Quand elles sont les plus perdues, c'est l'eau, c'est l'eau. si tranquille de nos travaux. Quand nous montions dans nos bacs, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage là-haut, là-haut.
Je sais pas s'ils vont rester.
Ils
inonderont
nos villages et nous mettront dans des cages.
Ouais, ça c'est déjà ça, c'est une journée.
Nous devons les empêcher là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau. Nous allons nous organiser pour nos armées répliquer. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau. Ils nous montrent des contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, sur nous. Ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent. Que ferions-nous dans leur ville, tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile, oiseaux, oiseaux. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister, pour l'eau, pour l'eau.
Racconto delle lotte e meno alle relazioni che si creano durante questi momenti, quindi vorremmo dare importanza a queste relazioni.
E du coup on vient ici avec un besoin dans la discussion, c'est un besoin de trouver une problématique, une question problématique sur notre relation dans les luttes avec les territoires. Et pour nous ça va être très pragmatique, c'est que après le village de l'eau, on aimerait produire une sorte d'atlas des 7 territoires que l'on a traversés. Un truc très simple, une couleur sur un A3, le petit format. Et parce qu'on pense que la cartographie est une façon de raconter une relation au territoire, mais c'est pas, une carte ne représente jamais l'entièreté d'un territoire, elle le représente d'une façon problématique, d'une façon positionnée, d'une façon critique. Et ce qu'on aimerait de la discussion, nous, c'est de récupérer une question. Et après, on a prévu peut-être de se diviser après la discussion d'une heure et demie. Et nous vous proposera d'essayer de trouver une légende pour cet atlas qu'on retravaillera à Vicenza pour représenter nos territoires en 2024 avec les questions de l'eau, les questions du fascisme, toutes ces questions que l'on a. Et peut-être juste pour vous stimuler et vous montrer, on a ici des cartes qui viennent de Nantes. C'est une maison d'édition dont on fait partie et qui a commencé avec la carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2016, qui est une carte imprimée en 25 000 exemplaires au final. Et voilà, c'est des formes de collectifs qui vont faire des cartes de lutte ou des cartes de questions conflictuelles.
De la Terre, on est un mouvement qui est né il y a 3 ans et demi maintenant sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais qui a aujourd'hui une dimension nationale, puisqu'il y a des comités dans toute la France, mais aussi dans certains pays frontaliers, comme en Belgique, peut-être en Suisse, mais pas en Belgique et en Suisse. Et le mouvement, on se situe comme un mouvement et non pas comme une organisation, ni comme un groupe, ni comme une organisation, parce qu'en fait on est parti du constat que face à un ennemi qui était à la fois trop grand, trop complexe et dur à appréhender, on avait besoin de retourner sur un ancrage local et de pouvoir agir sur quelque chose sur lequel on avait prise, et donc de se rapprocher des luttes locales pour pouvoir venir renforcer les luttes locales et faire passer ces luttes qui souvent ont déjà fait un travail localement auprès des habitants d'enquêtes, de sensibilisation, voire mener des actions soit de désobéissance civile, soit de tractage, et faire passer un seuil en termes de mobilisation et de modalités d'action. Du coup, donc ça fait 3 ans et demi et du coup 7 saisons qu'on a commencé à s'organiser sur le territoire. Et au bout de 3 ans et demi, on fait le constat en ce moment, après vraiment une montée en puissance des mobilisations des soulèvements de la terre qui ont commencé en mobilisant quelques centaines de personnes sur les premières actions jusqu'à réunir 30 000 personnes à Sainte-Soline l'année dernière. On fait le constat d'un certain paradoxe entre la possibilité de réunir énormément de personnes sur un chantier, contre un projet comme les méga-bassines, et en même temps parfois de deux difficultés. La première, une difficulté tactique d'obtenir des victoires, de pouvoir continuer à faire de l'action directe de masse et de pouvoir porter des gestes réellement impactants sur les chantiers à un très grand nombre. Nous, ce qui nous motive, c'est aussi de faire que le plus grand nombre et de rendre cette pratique de l'action directe la plus populaire et la plus large possible, et de faire qu'il y ait un très grand nombre de personnes qui s'approprient ces gestes et qui les reproduisent. Face à ces paradoxes de pouvoir essayer de porter des gestes impactants au plus grand nombre face à une police qui s'adapte extrêmement vite et qui empêche, on fait le constat de la nécessité de s'adapter nous aussi et de pas rester figé dans nos choix tactiques, et de se dire voilà, comment est-ce que c'est encore possible en France, en tout cas, de mener des actions directes de masse. Comment est-ce qu'on articule ces actions avec un grand nombre de personnes, avec d'autres types d'actions? Ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, sur lequel on se rejoint peut-être avec le mouvement Notable, c'est la volonté de porter, d'avoir des ambitions stratégiques qui vont au-delà aussi de lutter pied à pied sur chaque chantier et localement, et de porter un discours plus général et de porter une dimension révolutionnaire. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ce passage de seuil entre une lutte locale et une dimension plus globale? Comment est-ce qu'on met en avant des enjeux locaux qui vont être l'accaparement de terres données sur un territoire donné, de l'eau sur un bassin versant, et le modèle, dans le cas des bassines, le modèle agro-industriel, mais plus largement le modèle de société que ces projets portent, et comment est-ce qu'on fait pour parler de ces modèles de société qu'on a envie de combattre, et tout en continuant à mobiliser les personnes de façon suffisamment intime et physique pour qu'elles aient envie de se mettre en jeu physiquement avec nous. Ça fait donc plusieurs années que les soulèvements de la terre à côté de Bassines Non Merci luttent contre les méga-bassines dans le Marais Poitevin et partout en France maintenant. Il y a eu des dizaines de mobilisations, il y a eu des dizaines d'actions très variées qui ont eu lieu. Et après Sainte-Soline de l'année dernière, où un très grand nombre de personnes sont venues du monde entier pour essayer d'atteindre la bassine de Sainte-Soline. Cette année, on a fait le choix avec les soulèvements de la terre et Bassines Non Merci d'axer notre mobilisation, donc c'est la mobilisation de cet été, sur la filière agro-industrielle. Et on a fait le choix de faire un travail d'enquête qui a commencé il y a plusieurs années sur la filière agro-industrielle et sur le... À quoi sert le maïs qui est produit grâce à l'eau des méga-bassines? Où va ce maïs vers où il est exporté et par qui et comment. Et on voit que on a fait le choix d'une semaine de rencontres sur le village de l'eau, de rencontres politiques, de formations internationalistes, mais aussi de formations de déplacement de groupe. Enfin, il y a eu vraiment énormément de choses qui ont pu être échangées pendant une semaine sur le village et de mener deux journées d'action, dont une grande journée d'action le samedi à La Rochelle, qui avait pour enjeu de remonter la filière et d'aller cibler le port de La Rochelle et les coopératives qui exportent le blé et qui, en fait, plutôt spéculent sur le blé qu'ils n'exportent pas réellement ou qui l'exportent au moment le plus propice. Typiquement, le blé qui est le blé et le maïs. Le blé et le maïs qui est stocké à La Rochelle, il est stocké pendant des mois et des mois et il est revendu au moment où c'est le plus cher sur les marchés, notamment par rapport à la guerre en Ukraine. On a vu, en tout cas, on a pu faire le constat qu'elle avait une certaine forme d'écueil, même si elle a réuni une dizaine de milliers de personnes pour bouger ensemble dans La Rochelle. C'est qu'elle avait une dimension qui était au final très symbolique, parce qu'en fait c'est très difficile de cibler et de venir s'attaquer au système agro-industriel, et que du coup on a fait face à une difficulté à trouver des cibles atteignables dans cet endroit, et du coup on fait le constat de à la fois une forme de réussite, avoir réussi à porter un discours plus global et peut-être des formes d'action plus symboliques et qui pour nous sont pas forcément des échecs, mais en tout cas qui remettent en question nos modalités d'action. Et que c'était une dimension qui pouvait étreindre suffisamment les gens sensiblement pour opérer des moments de bascule. Et dans les derniers mois, même si ça fait très longtemps que la fascisation de la société elle a lieu en France, dans les derniers mois, on a failli avoir un gouvernement d'extrême droite, toujours très proche d'avoir un gouvernement d'extrême droite en France. Et évidemment, on s'est posé la question de comment réagir face à ça, comment est-ce que c'était pertinent de garder l'écologie comme front de lutte. Et ce qui est ressorti des discussions collectives qu'on a quand on se retrouve sur les mobilisations, sur la question de comment ne pas laisser et les mobilisations populaires et les territoires ruraux à l'extrême droite et au fascisme, notre réponse, nous, elle est principalement de renforcer nos ancrages locaux, de renforcer nos ancrages locaux, c'est très dur à dire, de chercher des lieux, de chercher une présence régulière sur les territoires, et donc de s'appuyer sur tous les comités locaux qui se sont créés pour justement essayer de renforcer ça. Et c'est la perspective des soulèvements de la terre, donc plutôt face à la fascisation, d'essayer de retourner à quelque chose de très local, tout en continuant à faire des mobilisations nationales, tout en continuant à garder un discours général, mais on fait le constat qu'on a besoin d'être présent et présente tous les jours sur tous les territoires. Et du coup, il y a des personnes présentes qui sont aussi là au nom de différents collectifs, dont des collectifs avec lesquels travaillent les Soulèvements de la Terre, ou qu'on a croisé pendant la traversée. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole pour dire quelque chose autour de ça.
Dico qualcosa ancora a nome del Soulèvement de la Terre, e dopo sarebbe bello che questo fosse veramente un dibattito, quindi invito chiunque a contribuire. E sappiamo che negli ultimi mesi la Francia ha veramente rischiato di avere un governo di destra e siamo tuttavia ancora vicini a questo rischio, e ci siamo poste più volte la questione di come reagire alla possibilità.
Donc moi je voulais prendre la parole depuis un collectif contre la LGV Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax dans le sud-ouest de la France. En fait, j'ai l'impression que la question qu'on pourrait se poser là, de la mise en lien de différentes luttes écologiques ou plus larges, c'est que souvent on part de des conséquences des projets, des infrastructures contre lesquelles on lutte, comme des points communs qu'on peut avoir. Moi, je voulais proposer plutôt qu'on passe plutôt à la question de quel monde ça sert et du coup quelles sont les cibles communes qu'on peut avoir. Parce que il peut y avoir un projet d'autoroute d'un côté et puis un projet d'aménagement urbain de l'autre, et on ne fait pas forcément le lien. Et justement, particulièrement dans la lutte contre la LGV, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'en fait, les flux de marchandises et la question de la métropolisation et la bétonisation, etc., et ben, ils peuvent être liés. Il y a des constructeurs, etc., qui sont communs. Et surtout, en fait, ça sert un même système. Et bon, en fait, là, on parlait, par exemple, de lutter contre le capitalisme. Ben, c'est pareil, ça peut aussi être une sorte de flou, quoi. Et donc, l'idée, c'est de sortir soit d'un capitalisme flou, soit d'une lutte locale isolée. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de cartographier ces éléments-là, c'est intéressant, parce que ça permet une sorte de constellation de cibles et d'endroits où il faut taper. Et donc, la question stratégique, c'est... On se pose la question ensemble de où est-ce que c'est le plus sensible, une sorte de point névralgique où c'est intéressant d'aller frapper. Et donc, je ne sais pas, les exemples que j'avais en tête, c'est par exemple là, récemment en France, juste avant les JO, il y a eu un blocage des TGV. Et ça a fait grand bruit parce que c'était à des endroits vraiment stratégiques, quoi. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut potentiellement réfléchir. Il y a un autre point névralgique auquel je pensais, qui se relie avec la question de la montée du fascisme dans ce truc d'un monde que ça sert. Ben, en fait, il y a plein de projets d'infrastructures et de construction qui sont liés au fascisme, et particulièrement Bolloré, je pense que c'est aussi un point névralgique. Et du coup, c'est ces questions-là stratégiques que j'ai l'impression qu'on pourrait poser. Et depuis la lutte contre la LGV, c'était aussi une proposition qu'on voulait faire avec le Notav, de se poser des questions ensemble, parce que nos luttes sont... Hier, je crois que c'est Julien qui disait qu'elles étaient sœurs, contre quoi, quel monde ces projets-là y servent, et du coup, contre qui on se bat ensemble, et comment on peut, du coup, aller taper ensemble à des endroits, et du coup, bah, quels endroits, quoi.
Bonsoir, moi je vais parler au nom du collectif Stop Micro. On est un collectif à Grenoble qui lutte contre les industries de la microélectronique locale, et en particulier ST Microélectronique, qui est une entreprise franco-italienne. Le collectif il s'est monté en 2022 pendant un été de sécheresse, et à ce moment-là, le président est venu annoncer l'extension de cette usine pour 3 milliards d'argent public. Justement, ça fait le lien avec l'Italie, parce qu'en ce moment il y a une extension qui est aussi en cours à Catane, où il y a la sécheresse. Et ce pourquoi on s'est mobilisé au début, c'est surtout parce que ces usines elles consomment énormément d'eau.
Rebond à ce qu'a nommé Ecologie à Politica sur le lien entre échelle de lutte et des échelles plus grandes, juste nommer que dans les chemins qui ont amené au soulèvement de la Terre, bien sûr, dans une aventure commune, il y a plein de fils à suivre et qui viennent. Il y en a un des chemins, c'est l'aventure de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD. Moi, c'est le chemin qui m'a politisé. Mais comment, en même temps, dans les questions qui ont permis de monter le mouvement des soulèvements de la Terre, il y a des questions qui se sont posées sur l'histoire de la ZAD et aussi une analyse de ce qui s'y était passé. Et c'est, pour juste nommer deux choses, j'ai l'impression que c'est un espace-temps où des centaines, des milliers de gens sont venus et ont construit ensemble des expériences politiques par l'occupation. Mais qu'en même temps, il y a eu le sentiment que tout d'un coup, il avait fallu mettre beaucoup de force à un seul endroit pour faire tomber un projet. Donc l'abandon de l'aéroport, c'était en 2018. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un truc aussi de se dire... comment l'occupation, qui est un truc assez incroyable de transformation existentielle, eh ben, ça ne peut pas être tout. Enfin, il faut aussi se mettre sur d'autres plans et d'autres négociations avec d'autres entités. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez nommé d'Ecologia Politica, c'est ce qui se nomme dans les soulèvements, ce travail de composition, et qui est un peu différent de celui qu'on a vécu pendant 10 ans à Notre-Dame-des-Landes, de l'expérience complète, mais qui n'arrive pas à dealer avec d'autres échelles. Quoi. On peut s'enfermer dans une forme de localisme, quelque part. Bon, je voulais juste nommer ça par rapport au débat.
Tous les camarades de Soulèvement de la Terre, Bastien Merci et tous les autres collectifs qui sont ici aujourd'hui. Je pense qu'on avait beaucoup besoin de nous rencontrer. Et ça fait des années qu'on rencontre des collectifs qui font partie des autres pays et pas que italiennes du coup. Et on n'avait jamais encore rencontré les Soulèvements de la Terre comme aujourd'hui. Et on pense que c'était très important de le faire parce que la façon de lutter des Soulèvements de la Terre nous intéresse beaucoup. Je me suis beaucoup interrogée pendant les révoltes des dernières années, surtout les révoltes qui ont littéralement brûlé les villes françaises, comme l'assassinat de Nahuel l'année dernière. Et l'insurrection qui a eu lieu dans cette période dans les villes de France. Et pendant ce moment-là, je me suis interrogée sur la motivation qui a amené des camarades à s'activer dans des lieux qui ne sont pas urbains, qui sont dehors de la ville. Et qui ont du coup eu l'intérêt d'interroger des territoires différents, que bien sûr c'était déjà mobilisé pendant les mobilisations de Gilets jaunes, mais que n'était jamais interrogé comme ça, comme vous l'avez fait.
Ah bene, intanto grazie alle compagne e compagni francesi, perché sentivamo il bisogno di questo confronto e abbiamo incontrato tante tanti compagni, non solo in Italia ma anche un po' da tutto il mondo negli ultimi anni, e Soulèvement de la Terre era probabilmente una delle organizzazioni che ci interessava di più anche incontrare, come stiamo facendo in questi giorni. E personalmente, ad esempio, quello che mi piace proprio di Soulèvement de la Terre e che mi ha incuriosito anche fin dal primo momento è che mentre le città francesi stavano bruciando per le rivolte dovute all'uccisione di Noël o anche durante tutta la lunga fase di lotte che è partita, diciamo, dal Loi Travail fino all'ultima riforma delle pensioni, ecco, nel momento in cui proprio c'era l'epicentro del conflitto, dell'insurrezione nelle città, dei compagni e delle compagne francesi hanno interrogato invece una zona, un territorio extraurbano, rurale, che comunque aveva avuto una sua espressione sicuramente durante la mobilitazione dei Gilets Gialli, che abbiamo visto che era stata comunque una mobilitazione partita anche proprio dalla provincia, dalle periferie, ma che effettivamente nessuno fino a quel momento stava in qualche modo cercando di attivare o interrogarsi su come fare intervento politico su questo terreno qua.
Alors, je termine avec un peu d'optimisme. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on voit monter le fascisme en Europe, mais on peut aussi dire que le fascisme qu'on voit aujourd'hui, c'est un fascisme qui a besoin de la guerre, c'est un symptôme de la guerre. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est continuer à mener un travail qui est peut-être un travail un peu dans la petite échelle des fois, mais qui nous permet de lutter contre un système libéral qui est totalement en crise. Et on le voit très bien dans le fait que ce système libéral n'arrive plus non plus à atteindre les besoins de la classe la plus riche, de la bourgeoisie et du système occidental. Et ça, c'est le symptôme vraiment d'une crise très profonde, et ceci un symptôme du capitalisme. Les guerres qu'on voit aujourd'hui, c'est seulement des guerres qui sont aussi une réponse à le manque de ressources. Et on sait très bien qui pourra contrôler les ressources en eau, les terres, etc. Ça sera qui pourra contrôler le système global du demain. En fait, c'est aussi des guerres qui se produisent dans une façon un peu différente de les guerres du passé. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment d'essayer de reprendre le contact avec nos territoires et de transformer la frustration, transformer la dépression, transformer le manque d'énergie dans un élan de joie et de force révolutionnaire. Parce que le fascisme, comme je disais, c'est pas si fort comme il paraît.
Yippa !
Sur notre planète, parce que d'ici à 50 ans, c'est sûr que la lutte des classes, ça se produira dans le terrain de la lutte pour la justice climatique et pour l'écologie. Au début de notre histoire, on a beaucoup travaillé sur la composition, sur la jeunesse en général. C'était la période de Fridays for Future qui a beaucoup interrogé la composition universitaire et aussi des écoles secondaires. Et sur ce point-là, on peut dire qu'on a bien réussi. Mais aujourd'hui, on a un autre enjeu politique, c'est d'élargir notre mobilisation au dehors de l'université et en dehors de la ville. Et parce qu'on se rend compte qu'il y a un espace politique qui n'est pas occupé par personne, parce que les gens n'ont plus confiance ni dans les institutions et ni dans le mouvement social. Et on voit qu'après les mobilisations de l'époque de Berlusconi en Italie, il y a eu une crise de ce type de mobilisation sociale. Okay. On se demande aujourd'hui quelle typologie d'écologie on imagine face à ça, face à ce vide d'activation politique. Et on s'était beaucoup posé la question aussi à l'époque de Fridays for Future de quelle relation entre homme et nature il y avait, il se donnait dans notre espace politique. Et sur ce point-là, on n'était pas d'accord avec eux, parce que pour nous, l'enjeu écologique, ça se joue au niveau des inégalités qui se créent dans notre société humaine. Et aussi sur l'imaginaire qu'on peut créer pour le prochain futur qu'on veut vivre. Et on s'est beaucoup interrogé aussi sur le travail interne qu'il y a besoin de construire pour ne pas reproduire des dynamiques, on peut dire, toxiques qui faisaient partie aussi de certaines communautés politiques qui ont contribué aussi à la perte de confiance dans le mouvement social en général dans le passé et qui ont beaucoup affaibli du coup la lutte politique dans notre pays.
Pour ce point spécifique de comment... avec des habitants d'un territoire en particulier, arriver à donner des perspectives sur comment ça se connecte à ce qui se passe ailleurs. À Détrier, en ce moment, dans le massif de Beldon, qui est un des territoires qui va être traversé par la TAV, mais qui pour l'instant n'est pas du tout impacté, et où le maire est un des deux maires français à s'opposer au projet. Les militants, ils ont mis en place un système de navettes où ils disent aux habitants du territoire, vous savez, ce grand projet du Lyon-Turin que les promoteurs de Telt viennent vous vendre, si on allait voir ensemble ce que ça donne à Villars-Audin-Bourget, qui est le village français qui est impacté à titre principal. Et donc ils font des navettes, d'ailleurs la prochaine est le samedi 21 septembre, où ils emmènent des habitants du village qui s'interrogent sur ce que c'est que ce projet, et ils leur montrent les impacts à Villars-Audin, et puis les habitants de Villars-Audin leur racontent un peu les impacts sur l'eau, les fontaines qui servissent, les spots allumés 24 heures sur 24. Et du coup, ça me faisait penser de manière un peu directe, et aussi parce que la lutte contre le TAV en France on en a peu parlé là parce que aussi elle prend des formes qui sont moins puissantes et moins structurées pour le moment qu'en Italie. Et donc, enfin, juste, ça me fait penser à ça, que c'est une manière très sensible d'habitant à habitant de se raconter entre certains qui sont à une étape un petit peu plus avancée dans le projet, qu'est-ce que c'est que la réalité de cette lutte, et du coup de se sentir relié alors qu'il y a quand même plusieurs heures de route qui séparent les deux endroits.
Bonjour, bon, je vais essayer de faire court. Je ne représente pas, mais je viens d'une lutte à Besançon où il s'agit en fait d'une zone verte, de jardins autogérés par des ouvriers, principalement les retraités, qui doit être détruite pour construire des immeubles. Ça s'appelle la lutte des jardins des vertes à Besançon. C'est pas trop fort. Et donc, cette lutte qui dure depuis déjà 7-8 ans, elle a été, dès le départ, l'acte 1 des soulèvements de la terre, la première année, puis un autre acte d'une autre année. Et c'est une lutte qui a pas mal dérapé entre les gens, parce qu'il y a beaucoup de testostérone et de peut-être trop. Et puis, malgré ces deux appels nationaux des soulèvements de la terre à venir soutenir la lutte à Besançon, ça n'a pas vraiment décollé. Par contre, on a eu